Chapitre 4. Échange d'armes. La maîtresse d'armes, Odd, accéda à ce titre après de longues années comme compagnon de maître Krend. Elle avait bien employé son temps, car elle avait appris non seulement le maniement de toutes les armes, mais aussi la façon de fabriquer de bonnes épées. De fait, certains affirment encore que c'était là son talent premier, et qu'il eût été de l'intérêt de Castelser de confier à un autre la fonction de maître d'armes et de la maintenir à la forge. Toutefois, le roi subtil pensait différemment. À la mort de Krend, Odd prit aussitôt sa place et eut la charge de la formation de tous les hommes d'armes du château. Elle servit bien le trône loinvoyant et périt au combat en défendant le roi servant vérité. Chronique de Gérepu. L'application avec laquelle le fou se débarrassait de ses possessions suscita chez moi le désir soudain de faire le tri dans mes affaires. Et ce soir-là, au lieu de préparer mes bagages, je m'assis sur le coin du vieux lit d'imbre, avec autour de moi tout ce qui m'appartenait. Si j'avais partagé la mélancolie fataliste du fou, l'indigence de cet étalage m'aurait peut-être affligé. Mais non, au contraire, je la contemplais avec un grand sourire. Même Girofle, le furet, qui y fourrait son museau, ne paraissait pas impressionné. Le tas de vêtements que j'avais rapporté de chez le fou et la magnifique épée à la garde surchargée en formaient le plus gros. La plupart des habits que je portais dans ma chaumine avaient fini sur le tas de chiffons près de la table de travail. Je possédais deux uniformes neufs de la garde princière. L'un d'eux se trouvait déjà soigneusement plié dans un coffre de marin au pied de mon lit avec mes autres tenues de rechange. Sous ce linge, j'avais caché plusieurs petits paquets de poisons, sédatifs et reconstituants qu'Imbre et moi avions concoctés. À côté de moi, sur le lit, divers outils discrets, crochets et autres instruments s'alignaient dans un petit rouleau que je pouvais dissimuler dans ma chemise. Je le rangeais dans le coffre, puis je classais mon étrange assortiment en attendant de voir. La sculpture d'œil de nuit trônait sur le manteau de la cheminée. Je ne voulais pas la risquer lors de mon voyage. Quant au collier porte-bonheur que Gina, la sorcière DM, avait confectionné à l'époque où nous étions en meilleurs termes, je savais que je ne le porterais jamais, et pourtant, j'éprouvais une curieuse répugnance à le jeter. Je le déposais sur les costumes que Sire Doré m'avait infligés. La petite épingle en forme de renard que Kétriken m'avait offerte ne me quittait pas, toujours piquée à l'intérieur de ma chemise, sur mon cœur. Je n'avais pas l'intention de m'en séparer. J'avais placé à part quelques objets que je destinais à Heure, en majorité de petits jouets que j'avais fabriqués ou achetés quand il était enfant, toupies, pantins et autres. Je les enfermais soigneusement dans un coffret au couvercle décoré d'un gland gravé. Je le lui remettrai au moment de lui dire adieu. Au milieu de mon lit, j'avais posé le paquet de plumes sculptées que j'avais découvertes sur la plage des autres. J'avais voulu les donner naguère au fou afin qu'il les essaye sur sa couronne de bois, certain qu'elle s'ajusterait parfaitement au logement. Mais il ne leur avait accordé qu'un coup d'œil et s'en était désintéressé. J'ouvris l'étui de cuir souple où je les avais roulés, les examinai brièvement tour à tour, puis les remballai. Après un moment de réflexion, je les fourrai dans un coin de mon coffre, auquel j'ajoutai mes aiguilles et des fils de grosseurs différentes, des chaussures et des sous-vêtements de rechange, un rasoir, une chope, un bol et une cuillère. J'avais fini. Je n'avais rien de plus à emporter, et guère d'avantage qui m'appartint en propre. Il restait bien ma jument, ma noire, mais son intérêt pour moi s'arrêtait à ce que je lui demandais. Elle préférait la compagnie de ses semblables et ne déplorerait nullement mon absence. Un palefrenier lui ferait prendre de l'exercice régulièrement, et tant que Pogne demeurerait maître des écuries de Castelser, je n'aurais pas à craindre qu'on la néglige ni qu'on la maltraite. Girofle émergea du tas de vêtements et s'approcha de moi dans une attitude faussement menaçante. « Si tu veux m'attaquer, tu as peu de chance de me rater », lui dis-je alors qu'il prenait une pose de défi devant ma main. Il aurait amplement de quoi se nourrir avec tous les rongeurs qui couraient dans les murs de Castelser, et il serait sans doute ravi de jouir du lit tout seul. Il se croyait déjà le propriétaire exclusif de l'oreiller. Je parcourus la salle du regard. Imbre avait fait main basse sur les manuscrits que j'avais rapportés de ma chaumine. Il les avait triés, ajoutant, à la bibliothèque de Castelserre, ceux qui ne présentaient aucun caractère dangereux, et enfermant dans ses armoires ceux qui révélaient trop clairement trop de vérité. Je ne les regrettais nullement. Je pris le monceau d'habits à plein bras et me dirigeai vers une des vieilles penderies d'Imbre, avec l'intention de tout y déverser en vrac. Mais saisi de remords au dernier moment, je secouai chaque pièce de costume et la pliai avec soin avant de la ranger. Je me rendis compte, alors, qu'individuellement, beaucoup ne présentaient pas le caractère ostentatoire que je leur prêtais. Et je gardai un manteau chaudement doublé pour le placer avec mes affaires de voyage. Quand toute ma garde-robe fut en place, je posai l'épée à la garde incrustée de pierres précieuses sur le coffre. J'avais décidé de l'emporter. Malgré son aspect voyant, elle était d'excellente facture et parfaitement équilibrée. À l'instar de celui qui me l'avait donnée, son scintillement dissimulait son véritable objet. On frappa poliment, puis le casier à vin pivota. Comme Devoir entrait d'un air las, Girofle bondit du lit et lui barra la route, les dents dénudées, emportant sur ses pieds des assauts interrompus aussitôt que lancés. « Oui, moi aussi je suis content de te voir, » dit le prince en s'emparant du petit animal. Il gratta doucement le furet sous le menton, puis le reposa par terre. Girofle s'en reprit aussitôt à ses bottes. En prenant garde de ne pas l'écraser, Devoir s'avança vers moi. « Vous désiriez encore alourdir mes bagages ?» Avec un grand soupir, il se laissa tomber sur le lit à côté de moi. « J'en ai par-dessus la tête d'emballer des affaires, » fit-il sur le ton de la confidence. « J'espère que ce n'est pas trop volumineux. » « C'est sur la table, » répondis-je, « et c'est assez encombrant. » Alors qu'il se levait, j'éprouvais soudain un intense regret, et je souhaitais de tout mon cœur pouvoir reprendre mon cadeau. Jamais il n'aurait la même valeur aux yeux de cet enfant qu'au mien. Il le regarda, puis se tourna vers moi, perplexe. « Je ne comprends pas. Vous me donnez une épée ?» Je m'approchai. « Celle de votre père. » Vérité m'en a fait présent lors de notre dernière séparation. Elle est à vous désormais. L'expression qui se peignit alors sur ses traits dissipa tous mes scrupules. Il tendit la main vers l'arme, la retira et me regarda, le visage empreint d'un émerveillement incrédule. Je souris. Je vous ai dit qu'elle était à vous. Prenez-la, soupesez-la. Attention, je viens de la nettoyer et de l'affûter. Il posa la main sur la poignée. Je m'attendais qu'il la lève et mesure son superbe équilibre, mais il s'écarta de nouveau sans la saisir. Non. Je restai abasourdi. Il poursuivit. Un instant, s'il vous plaît, ne bougez pas. Et il sortit en courant. J'entendis ses pas décroître dans le passage secret. Je ne comprenais pas sa réaction. Il avait paru enchanté tout d'abord. J'étudiai l'épée, astiquée. Huilée de frais, luisante, elle possédait une beauté élégante sans rien pour contrarier sa fonction première, celui d'instrument destiné à tuer des hommes. Elle avait été forgée pour vérité par Odd, la même maîtresse d'armes qui m'avait enseigné le maniement de l'épée et de la pique. Quand le roi servant avait pris la route pour accomplir sa quête, Odd l'avait suivi et avait péri pour le défendre. C'était une arme digne d'un roi. Pourquoi Devoir la refusait-il ? Je m'étais installé devant l'âtre, une tasse de tisane brûlante entre les mains quand il revint. Il entra en dénouant les liens de cuir d'un long paquet et déclara « J'aurais dû y penser quand j'ai appris votre identité, mais on me l'avait donné longtemps auparavant et ma mère l'avait rangé. Tenez !» Le tissu d'emballage s'ouvrit et le prince brandit l'épée d'un geste triomphant. Le visage fendu d'un grand sourire, il inversa brusquement sa prise sur la poignée et me la tendit. La garde sur l'avant-bras gauche, en me regardant, les yeux brillants de joie et de plaisir anticipé. « Prenez-la, fit ce chevalerie loin-voyant. Prenez l'épée de votre père. » Un frisson me parcourut et me laissa couvert de chair de poule. Je posai ma tasse et me levai lentement. L'épée de chevalerie ? Oui. Je ne pensais pas qu'il pût sourire plus largement, mais il y parvint pourtant. J'examinai l'arme. Oui, même si Devoir ne m'avait rien dit, je l'aurais reconnue. C'était la sœur aînée de celle de vérité. Elle lui ressemblait, un peu plus ornée, un peu plus longue, faite pour un homme plus grand que vérité. Un cerf stylisé décorait le quillon. Je sus alors qu'il s'agissait de l'épée d'un prince destiné à devenir roi, et que jamais je ne pourrais la porter. Je mourais pourtant d'envie de la posséder. « D'où la tenez-vous ? » demandai-je le souffle court. « De patience, naturellement. Elle l'avait laissée à Flétribois lorsqu'elle s'était installée à Castelserre, puis un jour, qu'elle faisait le tri dans son bric-à-brac, selon ses propres termes, après la guerre des pirates rouges, alors qu'elle déménageait à Guédonégosse, elle l'a retrouvée par hasard, au fond d'un placard. « J'ai bien fait de ne pas l'emporter à Castelserre, » m'a-t-elle dit en me la remettant. « Royal s'en serait emparé pour la revendre, ou bien il l'aurait gardée pour lui. » Je ne pus m'empêcher de sourire, tant cette anecdote était typique de patience. Une épée de roi égarée dans son bric-à-brac. « Prenez-la !» m'ordonna de voir avec feu. Et je ne pus qu'obéir. Je devais sentir une fois au moins la poignée qu'en serrait autrefois la main de mon père. Je n'éprouvais quasiment aucune sensation de poids, et elle se leva dans ma paume comme un oiseau dans son nid. À l'instant où j'en déchargeais de voir, il se tourna vers la table et prit l'épée de vérité. Je l'entendis pousser une exclamation de satisfaction et un large sourire étira mes lèvres quand il la saisit à deux mains pour effectuer un moulinet. Ces épées étaient de véritables armes faites pour trancher la chair autant que transpercer un point vulnérable. Pendant quelque temps, comme deux adolescents, nous pratiquâmes toutes sortes de mouvements. Depuis de petites torsions du poignet, propres à parer et dévier la botte d'un adversaire, jusqu'à un coup violent de taille verticale de devoir qui s'arrêta au ras des manuscrits posés sur la table. L'épée de chevalerie m'allait. J'y puisais une certaine satisfaction, mais constatais, dans le même temps, à mon grand regret, que ma technique était absolument indigne d'une telle arme. Je ne pouvais guère prétendre qu'à une certaine compétence dans ce domaine. Comment le roi qui avait abdiqué aurait-il considéré son fils s'il l'avait su plus adroit à la hache qu'à l'épée, et encore plus enclin à employer le poison. Avant que cette pensée démoralisante n'eût le temps de m'accabler, Devoir se porta à mes côtés pour comparer nos deux armes. « Celle de chevalerie est plus longue. » Il était plus grand que vérité, mais son épée me semble plus légère. La carrure de votre père lui permettait de porter des coups plus appuyés, et Od en a tenu compte, je pense. Il serait intéressant de voir laquelle des deux vous convient le mieux quand vous aurez votre taille d'adulte. Il saisit aussitôt le sous-entendu. « Fitz, je vous ai donné cette épée pour que vous la gardiez. » Je hochai la tête. « Et je vous remercie de cette attention. Mais je devrais me contenter de l'intention au lieu de la réalité. Cette épée est celle d'un roi, Devoir. » Elle n'a rien à faire entre les mains d'un garde, et encore moins d'un assassin et d'un bâtard. Tenez, regardez, là, sur la garde, le cerf loin-voyant, parfaitement reconnaissable. On le trouve aussi sur l'épée de vérité, en plus petit. Pourtant, tout réduit qu'il soit, j'ai dû le cacher sous un bandage de cuir après la guerre des pirates rouges, sans quoi on aurait compris tout de suite que cette arme ne pouvait pas m'appartenir. Ce serait encore plus manifeste sur celle de chevalerie. À regret, mais avec respect, je la posai sur la table. Délicatement, Devoir plaça celle de vérité à côté d'elle, et il prit l'air buté. « Comment puis-je accepter l'épée de mon père si vous refusez celle du vôtre ? C'est à vous que le roi servant mon oncle a donné son arme, pour qu'elle reste en votre possession. » Quand il m'en a fait présent, certainement. Et elle m'a bien servi de nombreuses années. Entre vos mains, elle servira encore mieux. Je suis sûr que Vérité partagerait mon avis. Pour le moment, mieux vaut ranger celle de chevalerie. Lorsque vous accéderez au trône, vos nobles voudront voir à votre hanche une épée de roi. Devoir réfléchit, les sourcils froncés. Le roi subtil n'en avait-il pas une ? Qu'est-elle devenue ? Assurément, mais j'ignore son sort. Peut-être Patience en a-t-elle hérité ? Ou bien Royal l'a-t-il vendu ou emporté, et d'autres rapaces l'ont-ils volé après sa mort? En tout cas, elle a disparu. Le jour de votre couronnement, je pense que vous devriez arborer l'épée du roi. Pour votre voyage dans les îles d'outre-mer, prenez celle de votre père. Je n'y manquerai pas, mais ne va-t-on pas s'interroger sur sa provenance? Cela m'étonnerait. Nous demanderons à Imbre de répandre la rumeur qu'il la gardait à votre intention. Les gens adorent ce genre d'histoire, et ils se feront une joie d'y adhérer. » Il hocha la tête, songeur, puis déclara d'une voix lente. « Je trouve triste que vous ne puissiez pas porter l'épée de chevalerie à la vue de tous, comme moi celle de mon père. Cela ternit mon plaisir. » « Le mien aussi, » répondis-je avec une franchise douloureuse. « Je le regrette fort de voir, mais c'est ainsi. Je possède une épée que m'a donnée Sire Doré, elle aussi d'une qualité sans rapport avec mon talent. C'est d'elle que je me servirai. Mais si jamais je dois manier une arme pour vous défendre, mieux vaudrait qu'il s'agisse d'une hache. » Il baissa les yeux, réfléchit, puis posa la main sur la poignée de l'épée de chevalerie. « En attendant que vous me rendiez cette épée le jour de mon couronnement, je souhaite que vous la conserviez. » Il reprit son souffle. « Et quand je recevrai celle de votre père de vos mains, je vous rendrai celle de mon père. » Je ne pouvais refuser un tel geste. Il repartit bientôt, comme il était venu, avec l'épée de vérité. Je me versai une nouvelle tasse de tisane et m'assis pour contempler l'arme de mon père. Je tentai de sonder ce que j'éprouvais, mais ne rencontrais qu'un vide étrange au fond de moi. J'avais appris depuis peu que, loin de se désintéresser de moi, il m'observait grâce à l'art par les yeux de son frère. Pourtant, cela ne compensait pas son absence physique de ma vie. Peut-être m'avait-il aimé de loin, mais c'était Burick qui avait formé mon caractère et Ambre qui m'avait instruit. Les yeux fixés sur l'épée, je cherchais un sentiment de filiation, une émotion quelconque, mais en vain. Je terminais ma tisane sans avoir obtenu de réponse et sans même savoir exactement quelle était ma question. Toutefois, j'avais résolu de trouver le temps de revoir Heure une dernière fois avant mon départ. Je me couchais et remportais de haute lutte sur Girofle la jouissance de l'oreiller. Néanmoins, je dormis mal, et pour finir, mon piètre repos se vit interrompu. Ortie s'insinua dans mes rêves comme une enfant qui cherche un réconfort à contre-cœur. Le contraste fut saisissant. Je franchissais un pierrier escarpé, souvenir de mon séjour dans les montagnes où, le fou inconscient dans les bras, j'avais dû traverser une semblable pente susceptible de glisser et de se transformer en avalanche au moindre faux pas. Dans mon songe, j'avais les mains libres, mais le versant paraissait encore plus à pic et descendre à l'infini. Des cailloux roulaient traîtreusement sous mes bottes, et à tout instant, je risquais de dégringoler dans le dévers comme les petites pierres qui claquaient près de moi en rebondissant. Les muscles tendus, douloureux, le dos ruisselant de sueur, j'aperçus un mouvement du coin de l'œil. Je tournai la tête avec prudence, sans mouvement brusque, et découvris Ortie, plus haut sur la pente, qui observait calmement ma progression angoissée. Elle était assise dans l'herbe, au milieu des fleurs des champs. Elle portait une robe verte et de petites pâquerettes ornaient ses cheveux. Même à mes yeux de père, elle avait plus l'air d'une femme que d'une enfant, mais elle se tenait comme une fillette, les genoux sous le menton, les bras autour des jambes. Ses pieds étaient nus et son regard troublé. Étrange opposition. Tandis que je tâchais tant bien que mal de garder l'équilibre sur le versant instable, dans son rêve qui jouxtait le mien, elle se trouvait sur une prairie de montagne. Sa présence me contraignait à reconnaître que je dormais, et pourtant j'étais incapable de renoncer aux efforts qu'exigeait mon cauchemar. Craignais-je de glisser dans la pente au bas de laquelle m'attendait la mort, ou bien de me réveiller brutalement? Je l'ignorais. « Qu'y a-t-il ? » criai-je en continuant de traverser lentement sur le pierrier. J'avais beau mettre un pied devant l'autre, le terrain stable que je visais restait toujours aussi loin et Ortie à ma hauteur. « Mon secret, » murmura-t-elle, « il me ronge. Alors, je viens te demander conseil. » Elle se tut, mais je gardai le silence. Je ne voulais pas connaître son secret, ni lui donner de conseil. Je ne voulais pas m'engager à l'aider. Même en plein rêve, je savais que je quitterais bientôt Castelserre, et même dans le cas contraire, il m'aurait été impossible d'intervenir dans sa vie sans risquer de la détruire. Mieux valait que je reste un personnage flou, à la frange de sa réalité. Malgré mon mutisme, elle reprit. « Si l'on donne sa parole de ne pas divulguer un renseignement, mais qu'on ne se rende pas compte de la peine qu'on causera aux autres et à soi-même, est-on tenu de tenir sa promesse ? Je ne pouvais pas tourner le dos à une question aussi grave.
« Tu connais la réponse, » dis-je haletant. « La parole donnée est la parole donnée. On la tient ou bien elle ne vaut rien. Mais j'ignorais le mal qu'elle engendrerait quand j'ai juré. Agile erre comme une âme coupée en deux. Je n'imaginais pas que maman rendrait papa responsable, ni qu'il se mettrait à boire parce qu'il s'en veut encore plus qu'elle. »
Je m'arrêtais, puis, malgré le danger, je me tournais vers elle. Ce qu'elle m'apprenait me jetait dans un péril bien plus grand que l'abîme qui béait derrière moi. D'un ton circonspect, je déclarai.
« Et tu crois avoir trouvé une façon de contourner ta promesse en me révélant ce que tu t'es engagé à leur terre ?»
Elle posa son front sur ses genoux et elle répondit d'une voix étouffée.
« Tu dis avoir connu papa il y a longtemps. Je ne sais pas qui tu es, mais peut-être le connais-tu encore. Tu pourrais lui parler.
Lors de la fugue de l'Est, tu m'as appelé pour me prévenir que mon frère et lui se portaient bien et qu'ils avaient repris la route de la maison.
Oh, je t'en supplie, fantôme de loup. Je ne comprends pas quel rapport tu entretiens avec notre famille, mais il existe, j'en suis sûr. En voulant aider l'Est, je n'ai apporté que la dissension et le malheur. Je n'ai plus que toi vers qui me tourner. Et je n'ai pas promis à l'Est de ne rien te dire. »
J'observais mes pieds. Elle avait changé mon aspect pour le conformer à son image de moi. Son rêve dévorait le mien, et j'étais devenu un homme-loup. Mes griffes noires s'enfoncèrent dans la pierraille. À quatre pattes, le poids de mon corps plus près du sol, je gravis la pente pour la rejoindre. Quand j'arrivais assez près pour distinguer les sillons de sel sec que ses larmes avaient laissés sur ses joues, je demandai d'une voix grondante,
« Me dire quoi ?»
Je lui avais donné la permission qu'elle désirait.
« Ils sont convaincus que l'Est a pris la mer. C'est ce que nous voulions leur faire croire, lui et moi. Oh, ne me regarde pas ainsi. Tu n'imagines pas l'atmosphère qui régnait à la maison. Papa avait l'air d'un orage toujours sur le point d'éclater, et l'Est ne valait pas mieux. Le pauvre Agile rasait les murs comme un chien battu, honteux des compliments que papa lui adressait parce que son jumeau n'y avait pas droit. Quant à maman, on aurait dit une folle. Tous les soirs, elle leur demandait ce qui n'allait pas, et aucun des deux ne voulait répondre. Le bonheur avait complètement déserté notre maison. Alors, quand l'Est est venu me demander de l'aider à s'enfuir, j'ai pensé qu'il avait raison.
Et quelle aide lui as-tu apporté ?
Je lui ai procuré de l'argent. De l'argent qui m'appartenait, que j'avais gagné en donnant un coup de main au Gossoin pour l'agnelage au printemps dernier. Maman envoyait souvent l'Est à la ville livrer du miel ou des bougies. J'ai imaginé un plan. Tout d'abord, il a commencé à poser des questions aux voisins et aux gens du bourg sur la marine, la pêche et la mer. Et moi, pour finir, j'ai rédigé une lettre et je l'ai signée du nom de papa, comme je le fais souvent. Ses yeux. Papa peut encore écrire, mais sa main s'égare parce qu'il ne distingue plus les lettres qu'il trace. Alors, depuis quelque temps, je me charge de ses documents, contrats de vente d'un cheval et autres. Tout le monde dit que j'écris exactement comme lui, sans doute parce que c'est lui qui m'a appris à former mes lettres. Donc...
Donc, tu as rédigé une lettre où ton père libérait l'Est de sa tutelle et lui donnait toute latitude pour vivre sa vie comme il l'entendait.
Je m'exprimais d'une voix lente. Chaque mot d'Ortie m'avait accablé un peu plus. Molly et Burick se disputaient. Ils s'étaient remis à boire. Sa vue baissait et il se rendait responsable de la disparition de son fils. Ces nouvelles me déchiraient l'âme, car je me savais incapable de rien y changer.
On peut avoir du mal à trouver du travail si on est pris pour un apprenti fugueur ou un enfant encore sous l'autorité paternelle,
dit Ortie d'un ton hésitant, pour justifier sa contrefaçon. Je préférais ne pas croiser son regard.
Maman a confié 6 paquets de bougies à l'Est pour qu'il les livre en ville et rapporte l'argent. Quand il m'a dit adieu, j'ai compris qu'il comptait profiter de l'occasion. Il n'est jamais revenu.
Autour d'elle, des fleurs s'épanouirent et une petite abeille se mit à butiner en zonzonnant. Je suivis lentement le fil logique de sa narration.
Il a volé l'argent des bougies pour continuer sa route.
L'estime que je portais à l'Est chut brusquement.
Ce n'est pas vraiment du vol. Il a toujours aidé maman à s'occuper des ruches. Et puis il en avait besoin. »
Je secouai la tête. Je trouvais décevant qu'elle cherche à excuser son frère. D'un autre côté, je n'avais jamais eu de petit frère. Peut-être toutes les grandes sœurs agissaient-elles ainsi.
« Acceptes-tu de m'aider ? »
demanda-t-elle d'un ton pitoyable, comme je gardais le silence.
« Je ne peux pas t'aider, »
répondis-je, désemparé.
« Je ne peux pas. »«
Pourquoi ? » ?»«
Comment m'y prendrais-je ? »
Je faisais désormais partie intégrante de son rêve. Le sol de la prairie était ferme sous mes pieds. Le printemps s'étendait sur les collines autour de moi. L'abeille se mit à bourdonner à mon oreille et je la chassai d'une pichenette. Derrière moi, mon cauchemar m'attendait toujours, je le savais. Si je reculais de deux pas, je me retrouverais sur la pente traîtresse.
« Parle à papa. Dis-lui qu'il n'est pas responsable de la fuite de l'Est. »
« Ça m'est impossible. J'habite très loin. Les rêves seuls permettent de communiquer par-delà pareille distance. »
« Ne peux-tu entrer dans les siens, comme tu le fais dans les miens ? Ne peux-tu t'adresser à lui ainsi ?»«
Non, j'en suis incapable. »
Bien des années plus tôt, Burick lui-même me l'avait appris. Mon père l'avait rendu impénétrable aux autres artiseurs. Chevalerie puisait de l'énergie en lui, et par ce lien entre eux, d'autres risquaient d'attaquer le futur souverain en passant par son servant. En arrière-plan, je m'interrogeais. Cela signifiait-il que Burick possédait autrefois un certain talent pour l'art, ou bien seulement qu'il était si proche de mon père que celui-ci pouvait employer sa force pour artiser ?
Pourquoi ? Tu interviens bien dans mes songes. Et puis, vous étiez amis il y a longtemps. Tu me l'as dit toi-même. Je t'en prie, il ne peut pas continuer ainsi. Cette vie le tue et ma mère avec lui.
Elle ajouta plus bas.
Tu le lui dois, je crois.
Une abeille jaillit d'une des fleurs d'ortie, se mit à bourdonner sous mon nez et je l'écartai d'un geste de la main. Il fallait que je mette fin à cette rencontre le plus vite possible. Elle tirait beaucoup trop de conclusions sur Burick et moi.
« Je ne puis m'introduire dans les rêves de ton père, Ortie, mais il existe une autre possibilité. Je connais quelqu'un qui sera peut-être en mesure de trouver l'Est et de le renvoyer chez vous. »
Alors que je prononçais ces mots, je sentais l'accablement me saisir. L'Est m'agaçait prodigieusement, mais je savais ce que représentait pour lui de devoir retourner auprès de Burick. J'endurcis mon cœur. Cela ne me regardait pas. Il était le fils de Burick, à eux de se débrouiller entre eux.
« Alors, tu sais où est l'Est ? Tu l'as vu ? Il n'a rien, il va bien ? Je ne cesse de l'imaginer, si jeune, tout seul à l'aventure, dans le vaste monde. » Jamais je n'aurais dû accepter de l'aider. Parle-moi de lui.
« Il va bien, »
répondis-je laconiquement. J'entendis l'abeille bourdonner à nouveau près de mon oreille, puis je la sentis se poser sur ma nuque. Je levai la main pour la chasser, et un instant plus tard, je ployai sous le poids d'un animal de taille considérable. Avec un cri aigu, je tentais d'échapper à sa masse, mais avant que j'eusse le temps de reprendre mon souffle, je me retrouvais suspendu en l'air entre les mâchoires d'un dragon. Il me secoua, non pour me tuer, mais à titre d'avertissement. Je cessai de me débattre et demeurai immobile. Ses crocs qui m'enserraient la gorge me paralysaient sans toutefois entailler ma chair. Comme Ortie se dressait d'un bond et l'air outragé s'efforçait de m'attraper, le dragon me souleva plus haut. L'espace d'une seconde, je surplombai ma fille, puis la créature pivota et me tint au-dessus de l'abîme de mon cauchemar.
« Attention, » fit-elle, « si vous résistez, je le lâche. » Les loups ne volent pas.
Sa voix ne provenait pas de sa gueule, mais surgissait directement dans mes pensées en un contact d'esprit à esprit. Ortie se figea.
Que veux-tu ?
Gronda-t-elle. Ses yeux noirs avaient pris l'éclat du silex.
Il le sait, lui,
répondit Tintaglia, en m'infligeant une petite secousse qui me disloqua la colonne vertébrale.
Je désire apprendre tout ce que vous savez d'un dragon noir enseveli dans la glace. Je désire apprendre tout ce que vous savez d'une île que les humains appellent Aslevial.
« J'ignore de quoi tu parles !»
s'exclama Ortie, furieuse, les poings serrés.
« Lâche-le !»
Très bien. »
Le dragon ouvrit la gueule, et pendant un instant d'épouvante, je chus comme une pierre. Puis, il projeta sa tête en avant, au bout de son cou sinueux, et me rattrapa au vol. Cette fois, ses mâchoires saisirent mon torse en tenaille, et il lesserra légèrement pour me montrer qu'il pouvait me broyer sans mal. Enfin, il relâcha sa prise et me demanda
« Et toi, que sais-tu, petit homme loup ?»«
Rien »
criai-je, avant de sentir tout l'air de mes poumons violemment expulsé sous la brutale pression des crocs. Je songeais que ma fin serait rapide et que je n'aurais pas à mentir longtemps. Le dragon n'était pas une créature patiente. Elle me tuerait vite. Je me tordis le cou pour voir ma fille. Horty paraissait avoir grandi soudain. Elle ouvrit les bras et des rafales de vent qu'elle seule percevait agitèrent ses cheveux qui finirent par former un halo autour de son visage. Elle rejeta la tête en arrière.
« Nous sommes dans un rêve »
hurla-t-elle.
« Et c'est le mien ! Je t'interdis d'y rester !»
Elle prononça ces derniers mots en les détachant, avec toute l'autorité d'une reine, et je mesurai alors la puissance de l'art de ma fille. Sa faculté de modeler ses rêves et d'y commander aux événements était la manifestation de son talent. D'un brusque mouvement, Tintaglia me projeta, tournoyant au-dessus d'un vide infini. Baissant le regard, je vis non le versant rocheux de mon cauchemar, mais un immense néant sans couleur ni fond. J'entraperçus le dragon qui se tordait furieusement, alors qu'Horty le réduisait à la taille d'une abeille, puis je fermai les yeux pour échapper au vertige de ma chute tourbillonnante. La gorge nouée, je prenais péniblement ma respiration pour crier, quand Horty murmura à mon oreille.
« Ce n'est qu'un songe, fantôme de loup, et il m'appartient. Dans mes rêves, tu n'aurais jamais rien à craindre. Regarde autour de toi, réveille-toi dans ton monde. »
Un instant avant d'émerger du sommeil, je sentis la résistance rassurante d'un matelas sous mon corps. Et, quand j'ouvris les yeux dans l'obscurité de ma salle de travail, je n'éprouvais aucun effroi. Horty avait débarrassé le cauchemar de la terreur qui l'imprégnait. Je poussai un long soupir de soulagement, et, alors que je me laissais aller de nouveau à l'assoupissement, je m'étonnais vaguement de la forme curieuse que prenait l'arche et ma fille. Puis, comme je tirais la couverture sur moi et poussais le furet pour me réapproprier la moitié de l'oreiller, le début de mon rêve me ramena à la réalité. L'Est avait menti. Burick ne l'avait pas jeté à la porte. Pire encore, sa disparition jetait le désarroi dans sa famille. Je restais immobile, les yeux clos, et m'efforçais de me rendormir. Peine perdue. De sa propre volonté, mon esprit organisait déjà mes prochaines actions. Il fallait que quelqu'un renvoie le garçon chez lui. Mais je refusais de m'en charger, car il exigerait certainement de savoir comment j'avais appris son mensonge. Non. Je révélerai à Imbre que Burick n'avait nullement désavoué l'Est, ce qui sous-entendait que je reconnaisse avoir des contacts d'art avec Horty. Mais qu'y faire ? Me dis-je mécontent. De toute façon, le sort paraissait s'acharner à dévoiler mes secrets. Je pris donc ma décision et tâchai de me convaincre que j'agissais pour le mieux. J'évitais d'imaginer Burick recommençant à boire chaque soir, et Molly perdant la tête à demi parce que son mari se réfugiait au fond d'une bouteille et que son fils ne revenait pas. J'essayais aussi de ne pas songer combien la vue de Burick avait baissé. Assez, en tout cas, pour le retenir de suivre la piste de l'Est, ou l'obliger à y renoncer. Je me levai à l'aube. J'emportai du pain, du lait et du jambon fumé de la salle de garde et allai me restaurer au jardin des femmes. Là, je m'assis sur un banc et restai à écouter les oiseaux gazouiller et à humer les odeurs que les plantes exhalaient sous le soleil levant. J'ai toujours tiré un profond réconfort de ces plaisirs simples. Ce matin-là, il m'affirmait que la terre demeure éternellement féconde et me faisait regretter de ne pouvoir être présent pour voir l'été asseoir son règne et les fruits gonflés aux branches. Je sentis la présence d'Astérie avant de la distinguer. Elle portait une robe de chambre bleu pâle. Ses cheveux défaits tombaient sur ses épaules et ses pieds menus et gracieux étaient chaussés de simples sandales. Elle tenait une chope fumante entre ses deux mains. Je l'observais en souhaitant que nos relations fussent plus faciles. Quand elle m'aperçut sur le banc à l'ombre de l'arbre, elle feignit l'ébahissement, puis sourit, en venant me rejoindre. Elle s'assit, ôta ses sandales et ramena ses jambes sous elle.
« Bonjour, »
fit-elle, un léger étonnement dans le regard.
« J'ai failli ne pas te reconnaître, Fitz. On dirait que tu as rajeuni de 10 ans. »«
Tom, » lui rappelai-je avec douceur, sachant bien qu'elle avait employé mon ancien nom pour me taquiner.
« Oui, j'ai la même impression. La routine de la vie de garde, voilà peut-être ce qu'il me fallait. »
Avec un grognement sceptique, elle but à sa chope, puis leva les yeux vers moi et déclara d'un ton acide.
« Je remarque que tu n'en penses pas autant de moi. »«
Quoi ? Que tu devrais t'engager dans la garde ?» demandai-je avec une expression faussement candide. Puis, comme elle faisait mine de me donner des coups de pied, j'ajoutai.
« Astérie, tu restes la même à mes yeux, ni plus âgée, ni plus jeune, mais toujours Astérie. »
Son front se plissa un instant, puis elle haussa les épaules en éclatant de rire.
« Je ne sais jamais si je dois prendre tes réponses comme des compliments ou non. »
Elle se pencha et huma l'air près de moi.
« Du musc ? Tu te parfumes au musc à présent, Tom ? Si tu veux attirer les femmes. »
« Non, je ne me parfume pas au musc. J'ai couché avec un furet, c'est tout. »
J'avais répondu avec le plus grand sérieux, et je sursautais quand elle s'esclaffa soudain. Peu après, je souriais comme elle tandis qu'elle secouait la tête. Elle se déplaça et sa cuisse chaude de soleil se colla contre la mienne.
« C'est bien de toi, Fitz. C'est vraiment tout à fait de toi. »
Elle poussa un soupir de contentement, puis dit d'un ton paresseux. « Puis-je en conclure que ton deuil est achevé et que tu t'es lié à nouveau ?» La matinée perdit soudain son éclat. Je m'éclaircis la gorge et choisis mes mots.
« Non, je ne crois pas que je me lierai encore une fois. Œil de nuit et moi étions faits l'un pour l'autre, comme le poignard et le fourreau. »
Je regardais le carré de camomille et poursuivis à mi-voix. Aucun autre ne peut lui succéder. Je rendrais un mauvais service à l'animal à qui je m'unirais, car il resterait un substitut et ne deviendrait jamais un véritable compagnon. Elle perçut mieux que je ne l'avais escompté ce que je ne disais pas. Elle allongea le bras sur le dossier du banc, y appuya la tête et se mit à contempler le ciel à travers les feuilles de l'arbre qui nous abritait. Je finis ma tasse de lait et la posai. J'allais prendre congé pour ma leçon avec l'Est quand elle demanda.
« As-tu jamais songé à retrouver Molly dans ce cas ?»«
Pardon. » Elle redressa la tête.
« Tu l'aimais ? Du moins, tu l'as toujours affirmé ? Et elle a porté ton enfant, ce qui lui a coûté cher. Tu sais qu'elle aurait pu s'en débarrasser si elle l'avait voulu. Si elle l'a gardé, c'est qu'elle éprouvait des sentiments profonds pour toi. Tu devrais te remettre avec elle. »
Notre histoire remonte à bien longtemps. Elle a épousé Burick et ils ont fondé une famille. Ils ont eu 6 enfants ensemble, répondis-je avec raideur.
Et alors ?
Elle leva le visage vers moi.
Je l'ai vu quand il est venu chercher l'Est au château. C'est un homme sombre et taciturne qui prend de l'âge. Il claudique et ses yeux s'embrument.
Elle secoua la tête d'un air apitoyé.
Si tu décidais de lui reprendre Molly, il ne pourrait t'opposer aucune résistance.
Jamais je ne me conduirais ainsi.
Elle but une gorgée de sa chope sans me quitter du regard.
Je sais, dit-elle en baissant le récipient. Et pourtant, lui te l'a prise ?
Ils me croient morts tous les deux, m'exclamai-je d'un ton plus sec que je ne le voulais.
Es-tu sûr de ne pas l'être ?
Fit-elle avec désinvolture. Son regard s'adoucit devant mon expression.
Oh, Fitz, tu n'agis jamais dans ton intérêt personnel, n'est-ce pas ? Tu ne t'offres jamais ce qui te fait envie.
Elle se pencha plus près.
Penses-tu que Molly t'aurait remercié de ta décision ? Penses-tu vraiment que tu avais le droit de choisir à sa place ?
Elle recula légèrement pour mieux m'observer.
Tu les as laissés partir, elle et l'enfant, comme 2 chiots auxquels tu aurais trouvé une bonne maison. Pourquoi ?
J'avais répondu si souvent à cette question que je n'eus pas besoin de réfléchir. Burig valait mieux que moi comme époux et comme père. C'était vrai alors, c'est le reste aujourd'hui.
Ah oui? Je serais curieuse de savoir si Molly partagerait cet avis.
Et ton époux à toi, comment va-t-il aujourd'hui? Demandai-je d'un ton brusque.
Son regard devint impénétrable. Qui le sait? Il est parti dans les collines pêcher la truite en compagnie du Seigneur et de Dame Chêne Rouge. Tu me connais. Ces sorties ne m'ont jamais intéressé.
Elle baissa les yeux.
Mais apparemment, leur charmante fille Lière les adore, elle. À ce qu'on m'a dit, elle s'est jointe au groupe avec enthousiasme.
En dire davantage eût été inutile. Je lui pris la main. Astérie, je suis navré. Elle inspira brusquement.
Vraiment? Moi non. Je profite de son nom et de ses propriétés, et il me laisse ma liberté de ménestrel, celle d'aller et venir à ma guise.
Elle pencha la tête.
Je me demandais si je ne me joindrais pas à la suite de devoirs pour sa visite des îles d'outre-mer. Qu'en penses-tu?
Mon estomac se noie.
Par pitié, non.
À mon avis, le voyage te paraîtrait bien pire qu'une partie de pêche à la truite. Il fera froid. Nous jouirons d'un confort rudimentaire et la cuisine outrillienne est épouvantable. Si on te sert du saindoux, du miel et de la moelle mélangée, tu auras connu le sommet de la gastronomie locale.
Elle se leva d'un mouvement gracieux.
Et du beurre de poisson, dit-elle. N'oublie pas le beurre de poisson, ils en mettent partout.
Debout, elle me regarda un moment, puis tendit la main pour écarter quelques mèches de mon visage. De l'index, elle suivit ma balafre.
Un jour, fit-elle à mi-voix, un jour tu te rendras compte que nous étions faits l'un pour l'autre, que malgré toutes tes aventures et tes escapades, je suis restée la seule à te comprendre et à t'aimer vraiment.
J'en demeurai pantois. Jamais au cours des années où nous nous voyons régulièrement, elle ne m'avait parlé d'amour. Ses doigts glissèrent sous mon menton et elle me referma la bouche.
« Nous devrions déjeuner plus souvent ensemble, » murmura-t-elle.
Puis elle s'éloigna d'un pas flânant, sa chope aux lèvres, sachant que je la suivais des yeux.
« Eh bien, en tout cas, tu as le talent de me faire oublier quelque temps mes soucis, » déclarai-je en aparté.
Je rapportai ma chope aux cuisines et me rendis au jardin de la reine. J'ignore si Astérie m'avait contaminé, mais quand je parvins au sommet de la tour et trouvai l'enfant en train de donner à manger aux colombes, je ne m'embarrassais pas de préambule.
« Tu as menti, » dis-je avant même qu'il pût me souhaiter le bonjour. « Ton père ne t'a pas chassé. Tu t'es enfui en volant de l'argent. »
Il me regarda, les yeux ronds, et il devint blanc comme un linge.
« Qui? Comment?
Comment je l'ai appris ?»
Si je te donne la réponse à cette question, je la donnerai aussi à Imbre et à la reine. Tiens-tu à ce qu'ils apprennent ce que je sais?
Je formai le vœu ardent de l'avoir jaugé correctement, et en mon fort intérieur, je poussai un soupir de soulagement quand je le vis avaler sa salive et secouer la tête en silence. Si je lui offrais l'occasion de rentrer chez lui sans que personne au château découvre sa faute, il la saisirait.
Ta famille se ronge les sangs à cause de toi. Tu n'as pas le droit de plonger dans l'inquiétude des gens qui t'aiment. Emballe tes affaires et repars comme tu es venu, petit. Tiens.
Sans réfléchir, je décrochai ma bourse. Il y a là-dedans de quoi te ramener à bon port et rembourser ce que tu as pris. N'oublie pas de rendre l'argent que tu as dérobé.
Il garda les yeux baissés. Oui, messire.
Comme il ne faisait pas un mouvement pour prendre la bourse, je lui saisis la main. La tournai paume en l'air et y déposai le petit sac de cuir. Quand je le lâchai, il me dévisagea sans réagir. Je pointai le doigt vers la porte de l'escalier. Il se tourna, frappé de stupeur, et se mit en route d'un pas mal assuré. La main sur le battant, il s'arrêta.
« Vous ne savez pas ce que je vis chez mes parents, »
chuchota-t-il. « Si, je le sais bien mieux que tu ne l'imagines. Rentre chez toi. » Soumets-toi à la discipline de ton père et sers ta famille jusqu'à ta majorité, comme un fils de bonne alloi. Tes parents ne t'ont-ils pas élevé? Ne t'ont-ils pas donné la vie? N'ont-ils pas rempli ton assiette? Ne t'ont-ils pas vêtu et chaussé? Alors il est juste que ton travail leur appartienne, tant que tu n'es pas un homme aux yeux de la loi. Ensuite, tu pourras choisir ta voie à ta guise. Tu auras des années pour découvrir ta magie, des années à toi, honnêtement gagnées, pour vivre comme bon te semblera. Ton vif peut t'attendre jusque-là. » Il appuya le front contre la porte.
« Non, ma magie n'attendra pas. »«
Il le faudra bien, » lançai-je durement. « Retourne chez toi à l'Est. Pars aujourd'hui même. » Il rentra la tête dans les épaules, poussa le battant, sortit et referma derrière lui. J'écoutais ses pas s'éloigner dans les marches et sentis sa présence disparaître à mon vif. Alors, je laissai échapper un long soupir. C'était une rude tâche que j'envoyais le fils de Burick accomplir. J'espérais qu'il aurait la force de l'affronter. J'espérais aussi, sans trop y croire, que son retour suffirait à retisser les liens de la famille. Je m'approchais d'un pas flânant du parapet et contemplais les rochers en contrebas.